BFM Politique. Benjamin Duhamel.
BFM Politique avec comme invité Sébastien Chenu du Rassemblement National. Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent chez eux que vous pouvez interroger directement Sébastien Chenu avec ce QR code qui apparaît à la droite de l'écran. Il suffit de le flasher et nous relayerons vos questions tout au long de l'émission. Sébastien Chenu, les rencontres de Saint-Denis entre le président et les oppositions auxquelles s'est rendu votre président, Jordan Bardella, n'ont pas donné grand-chose, pas de consensus pour l'élargissement de l'article 11 de la Constitution qui aurait donc permis de consulter les Français, notamment sur l'immigration. Donc, pas de référendum alors que vous en réclamiez un, c'est aussi un échec pour vous ?
Non, c'est un échec pour Emmanuel Macron parce que ces rencontres de Saint-Denis deviennent de plus en plus une illusion. C'est-à-dire que, en fait, où Emmanuel Macron nous démontre son impuissance, il est fort en bavardage, mais une fois qu'on est sorti des grands discours, des bavardages, que reste-t-il ? Vous savez, ça me rappelle tristement les Gilets jaunes, les grands débats, Emmanuel Macron parlait avec des centaines de gens, de personnes, de tous les sujets. À la fin, qu'est-ce qu'il est resté ?
Une illusion à laquelle vous participez, Sébastien Chenu, en y allant, en étant une forme de caution du président de la République.
Nous sommes des responsables politiques. C'est probablement aussi ce qui nous différencie des Républicains qui abandonnent leurs électeurs en race campagne, qui ne viennent pas. Nous, on a quelque chose à défendre. Et ce quelque chose à défendre, c'est ce en quoi croient des millions de Français, ceux qui ont fait confiance à Marine Le Pen.
Donc, nous comme le disait Benjamin, à la fin, ça ne sert pas davantage le président de la République électeurs.
Non, mais c'est le président de la République qui propose cela. Lorsqu'on est invité, on répond à une invitation du président de la République et on fait des propositions. On a, et on l'a exprimé, Jordan Bardella l'a exprimé au président de la République, aussi une exigence maintenant que ces propositions deviennent, si ce n'est une réalité, on comprend qu'il n'y ait pas de consensus forcément possible surtout, mais on veut du résultat.
Oui, mais il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Donc, ça veut dire que vous avez échoué dans cette travail de conviction.
Non, mais vous êtes en train d'essayer de nous faire croire qu'on allait réussir à convaincre Emmanuel Macron. On lui a fait part de nos préoccupations.
Qui était plutôt favorable, lui aussi, d'ailleurs.
De nos propositions. Mais ne venez pas dire que c'est l'échec du Rassemblement National, que c'est concertation de Saint-Denis, à partir du moment où c'est le président.
Sur l'immigration, c'est aussi un échec.
Soyons sérieux. C'est le président de la République qui initie l'opération, c'est le président de la République qui a la main, et c'est le président de la République qui décide des conclusions. Jordan Bardella est venu en réclamant un référendum sur l'immigration. Vous parliez de l'élargissement de l'article 11 de la Constitution. Il faut rappeler que cette Constitution, enfin cet article 11, a déjà été élargi par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy, notamment sur les problématiques environnementales, pour pouvoir faire un référendum sur les problématiques environnementales. Emmanuel Macron pourrait le faire, cet article.
Il faut une majorité des 3/5 au Congrès, qui aujourd'hui n'existe pas.
En tout cas, Emmanuel Macron est un acteur décisif en ce qui concerne la possibilité d'un référendum sur l'immigration. Il bat en retraite. C'est quand même incroyable. Il y a quelques semaines, il avait dit « j'envisage peut-être de le faire ». Maintenant, à nouveau, marche arrière. Et en fait, Emmanuel Macron, sur tous les sujets, passe son temps à ses alliés. Alors vous me direz, s'il est conseillé par Monsieur Bellatar, évidemment sur tous ces sujets-là, on peut comprendre.
Vous voulez l'aborder tout de suite. L'espèce, Yacine Bellatar a été reçu par des conseillers du président de la République pour, disent-ils, prendre la température, pas que je sache sur la question des rencontres de Saint-Denis et d'un référendum sur l'immigration.
C'est Jean Cocteau qui disait le drame de notre époque, c'est que la bêtise se soit mise à réfléchir. Et donc d'inviter Yacine Bellatar, je pense, illustre bien cette maxime de Jean Cocteau. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle en train d'inviter, Fernand Reynaud, mais c'était faire un compliment à Fernand Reynaud, qui est quand même un humoriste qui a marqué toute une époque. Enfin, inviter Monsieur Bellatar et dire qu'il est le thermomètre de la société. Bon, on sait quelle est la place d'un thermomètre.
Comment vous le décririez, Yacine Bellatar ?
Comme un pitre.
Si je suis le début de votre raisonnement.
Un pitre. Oui, un pitre.
Mais un homme dangereux.
Un trublion avec des accointances islamistes. Un homme qui disait « je ne suis ni Charlie ». Ni Nice, donc un pitre dangereux. Et je le redis, un thermomètre.
Mais c'est important ce que dit Amandine, qui concluait en disant je ne suis ni Charlie ni Nice, je suis français.
Oui, il fallait bien habiller un peu cette maxime, alors qu'il savait très bien qu'en disant je ne suis ni Charlie ni Nice, ce qu'il envoyait comme message. Donc consulter des pitres dangereux, finalement, des pitres de ce style, que l'Élysée se commette à cela, perde du temps à cela. Effectivement, à la fin, on ne peut pas s'étonner que les résultats de ces rencontres de Saint-Denis, qui devraient garder un niveau de réflexion et d'échange conforme à ce que les Français sont en droit d'attendre, pense que c'est navrant.
Justement, Sébastien Chenu, compte tenu de la déception exprimée à l'issue de ces rencontres, est-ce qu'il y a encore un intérêt à s'y rendre ? Si d'aventure, il y a à nouveau une invitation formulée par le président de la République, est-ce que Jordan Bardella a intérêt à y aller ou pas ?
Vous avez raison, la question se pose. Nous, on n'a pas voulu s'effacer du débat. On a considéré, je vous le disais tout à l'heure, contrairement aux Républicains, qu'on ne s'efface pas du débat. Le président de la République nous propose une tribune, nous propose d'échanger. On a des choses à dire. Jordan Bardella est venu en lui disant « faites un geste aussi sur le pouvoir d'achat, travaillez sur l'école ». Enfin, on a des propositions, réformer les institutions, oui. Par exemple, le conseiller territorial. En ce moment, on parle beaucoup des difficultés des maires.
Vous dites que la question se pose, c'est-à-dire que vous seriez plutôt tenté de ne pas y aller.
La question se pose de la prochaine fois, parce que si à la fin, c'est juste pour enterrer tous les sujets qui ont été soulevés, parce que c'est un peu ce qui s'est passé, on soulève des sujets, le président de la République dit « c'est très intéressant » et referme la boîte immédiatement. Ça va trouver sa limite, mais ça va la trouver pour Emmanuel Macron le premier. À un moment, il parlera à son miroir, mais c'est probablement ce qu'il préfère faire dans la vie.
C'est-à-dire
être seul face à lui-même.
Là, en l'espèce, il invite des opposants.
Oui, non, mais ça se terminera, je vous dis, ça se terminera comme ça.
Vous dites, c'est ce qu'il préfère. Il préfère quoi?
Oui, Emmanuel Macron a une difficulté avec l'échange, avec le fait, on le voit bien, avec la considération qu'il a pour le Parlement, la considération qu'il a pour le monde politique, pour les élus. Emmanuel Macron, pour les corps intermédiaires, qui leur marchent dessus, etc. Emmanuel Macron aime débattre avec Emmanuel Macron.
Regardez ce qu'a tweeté Marion Maréchal. Voir le tweet. Bonsoir Jordan Bardella, c'était dans la foulée de ces rencontres. Comme c'était prévisible, Emmanuel Macron a refusé ta demande de référendum sur l'immigration. Il se tutoie visiblement. Je le répète, le seul moyen de l'imposer est de passer par la pression populaire à travers le référendum d'initiative partagée. Il y a près de 5 millions de signatures de Français à aller chercher. Je te propose à nouveau d'y travailler ensemble. On en parle sérieusement, Marion. Non, mais est-ce que vous allez travailler avec le parti d'Éric Zemmour pour qu'il y ait un référendum d'initiative partagée sur l'immigration?
On pourrait se dire, Marion Maréchal a pris une bonne résolution, elle considère qu'il faut essayer d'être les plus forts, les plus nombreux, et donc de retirer éventuellement sa candidature aux élections européennes, puisqu'il faut travailler ensemble, donner ce qu'elle dit, c'est qu'il faut aller vers celui qui mène le débat, qui tient le lead, qui est donc Jordan Bardella. Je crois que tout ça, c'est une opération de communication. Nous, on a un projet de loi sur l'immigration.
Une question assez précise là.
Nous avons
un projet de loi très précis, et je crois qu'il y a des désaccords sur ce projet de loi très fort avec Éric Zemmour, projet de loi proposé par Marine Le Pen sur la lutte contre l'idéologie islamiste, par exemple, et nous considérons que sur ce projet de loi, il faut avancer. Nous avons une demande de référendum très précise, je ne suis pas persuadé que ce soit exactement ce que veuillent Éric Zemmour et Marion Maréchal. Donc
là-dessus, c'est niette.
S'ils sont d'accord pour venir sur nos propositions qui nous semblent être les plus travaillées, les plus concrètes, les plus percutantes et les plus faciles à mettre en œuvre immédiatement, on sera ravis d'obtenir des soutiens supplémentaires. Mais je crois que là c'est de la com', quoi.
Question d'Amandine sur le projet de loi immigration.
Oui, qui arrive à l'Assemblée nationale le 11 décembre. Gérald Darmanin espère que les députés du Rassemblement national vont s'abstenir. Donc, question simple, est-ce que vous pourriez vous abstenir sur ce texte et faire ainsi le gouvernement n'ait pas besoin d'utiliser un 49-3?
Je suis ravi que Gérald Darmanin attende beaucoup de nous, après nous insulter, là il attend un geste de notre part. Tout ça, c'est la politique politicienne. Quel est, j'allais dire, le cadre dans lequel on est en train de réfléchir? 29 lois sur l'immigration dans notre pays ont été votées ces dernières années. 29 lois qui actent une certaine inefficacité, sinon on n'en serait pas à essayer d'en voter une supplémentaire. On a un projet de loi qui est proposé, qui a été très retravaillé au Sénat, on en parlera probablement.
Très durci
au Sénat, dont on ne sait pas ce qu'il va devenir à l'Assemblée nationale.
Du texte tel qu'il est sorti du Sénat.
Mais ce ne sera pas en l'État, jamais l'arrêter de faire de la politique fiction.
Mais je ne fais pas de la politique fiction, si, on a un texte qui est sorti avec toute une série de mesures sur le regroupement familial, sur le droit du sol, sur les allocations, on va y revenir dans un instant. Est-ce que sur ce texte-là, vous pourriez vous abstenir?
Non, mais ce texte-là, il est l'objet d'une espèce d'oxymore. C'est d'ailleurs ce que disait Gérald Darmanin, c'est-à-dire assouplir et durcir. Ça marche pas sur l'immigration. On peut pas d'un côté assouplir, c'est-à-dire régulariser des travailleurs sans papier, de l'autre côté, c'est-à-dire une prime à quelque chose d'illégal déjà, ça me semble déjà fondamental de le dire, et de l'autre côté, durcir. On a un texte qui ne sera pas le texte final, faut pas faire croire ça aux Français, c'est pas responsable de faire croire ça aux Français.
Alors est-ce que vous affirmez l'inverse, que vous ne le voterez pas?
Aujourd'hui, nous redisons, quelles sont nos lignes rouges. S'il y a l'article sur les travailleurs sans papier qui seraient régularisés parce qu'ils travaillent, nous ne le voterons jamais. Or, le président de la commission des lois de la majorité présidentielle, Sacha Houlier, a indiqué que, évidemment, cet article figurera. Je crois même qu'Elisabeth Borne a indiqué qu'il figurerait. Si cet article ne figure pas mais qu'on s'aperçoit qu'en fait, il permet, à travers un jeu de bonneteau au préfet, de pouvoir régulariser tout de même, donc, en donnant des décrets, des capacités de décrets supplémentaires, on ne le votera
donc
pas
Sébastien
non plus.
Chenu, donc non Sébastien Chenu,
on n'est pas là pour entretenir des illusions.
Mais c'est intéressant. Si je dois résumer, ça veut dire que vous allez assumer de voter contre un projet de loi qui est soutenu par vos sympathisants dans les sondages, qui est plébiscité dans ces mêmes sondages par les Français, et avec toute une série de mesures qui, au fond, sont des sortes de grands classiques du Front National, Rassemblement National, depuis un certain nombre d'années.
Vous n'allez quand même pas faire croire que le texte de Gérald Darmanin, c'est un texte du Rassemblement National. On n'a pas eu un amendement
Mais non, mais ce qu'on comprend, c'est que vous préférez le statu quo.
Non, mais attendez.
Mais
si ce texte retient nos amendements à l'Assemblée nationale, si on retient nos amendements, parce que moi je note que dans ce texte, il y a rien pour décourager les arrivées, il y a rien sur les mineurs non accompagnés, il y a rien sur le fait de pouvoir devenir français. Donc, si on retient nos amendements, alors là,
est-ce que vous avez des discussions directes avec Gérald Darmanin, député du Rassemblement National?
Non, nous n'avons pas de discussions directes. Nous avons des discussions d'Assemblée. Si demain le ministre de l'Intérieur accepte de durcir le texte.
Vous lui lancez une forme d'appel en disant « travaillons ensemble et
Nous, tout ce qui peut aller… Et, enfin, je veux dire, cette loi, c'est une petite loi ordinaire face à un problème qui est extraordinaire. L'immigration pose des problèmes qui sont en dehors de l'ordinaire pour la classe politique et pour les Français. Donc, par conséquent, cette loi, on ne peut pas avoir une petite loi ordinaire. Si demain, Gérald Darmanin nous dit banco sur les amendements du Rassemblement National. J'y souscris, je les intègre au texte, je les soumets au vote, et avec le soutien du gouvernement, avec un avis favorable du gouvernement.
Objectivement, et là, ça
deviendrait un texte Rassemblement National.
Question, bien sûr.
Si le gouvernement.
Mais avec des si.
Alors, quand même, avec quelques si encore. Si le gouvernement considère qu'il n'obtient pas de majorité, qu'il ne veut pas prendre le risque d'aller au vote, et donc Elisabeth Borne d'aller déclencher un 49-3, si les Républicains déposaient une motion de censure, est-ce que le Rassemblement national pourrait la voter?
Mais là encore, vous me faites discourir sur des textes que nous ne connaissons pas, sur des scénarios. Des scénarios qui sont.
Il n'y a pas de majorité aujourd'hui.
Mais je vais répondre avec des éléments qui sont les miens.
Visiblement, mettez-vous d'accord, parce que ce matin à la radio, Jean-Philippe Tanguy disait aucun problème et on veut faire tomber le gouvernement.
Je vais vous expliquer avec les éléments qui sont les nôtres ce qu'on pourrait faire. Un, pour l'instant, les Républicains, ils n'ont pas déposé de motion de censure au moment où nous parlons depuis un an et demi. Ils ont toujours sauver la tête d'Emmanuel Macron dans les motions de censure. C'est-à-dire que les motions de censure n'ont pas été votées parce que les députés des Républicains ne les votaient pas et ont permis à Emmanuel Macron de se maintenir. Si demain, sur un texte auquel nous sommes opposés, celui-ci nous semble parfaitement imparfait, j'allais dire, eh bien, il y a une motion de censure, on pourrait très bien, nous, en déposer une, et que les Républicains en déposent une, on est tout à fait libre de la voter, on n'a aucun problème.
Mais votre objectif, c'est de
la
voter le gouvernement ou pas? Ce que disait Jean-Philippe Tanguy ce matin.
Alors, notre objectif, d'abord, c'est d'avoir une loi sur l'immigration demain qui tienne la route. Elle ne tient pas la route, celle-ci. Elle ne tient pas la route et elle est même dangereuse. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si ce gouvernement n'est pas capable de faire passer une loi sur l'immigration qui tienne la route, alors il devra plier bagage, Gérald Darmanin avec lui, et la somme d'échecs.
Sauf que vous savez qu'elle a aucune chance d'être votée, cette motion de censure, a priori.
Mais la loi, elle peut être modifiée. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il y avait des éléments.
Mais ça fait deux espoirs assez irréalistes.
C'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Tout ça semble assez peu réaliste. Et on est en train de faire croire aux Français que Gérald Darmanin va faire une loi très dure, alors qu'à la fin, ce sera une toute petite loi ridicule avec de toutes petites dispositions. Et on est en train de faire croire aux Français que les Républicains vont être les artisans de la démolition du gouvernement, alors qu'ils ont toujours été ceux qui l'ont soutenu.
Encore une question sur cette loi immigration. Le projet de loi voté au Sénat prévoit de limiter la possibilité des étrangers en situation régulière de percevoir toute une série de prestations sociales, les allocations familiales, les APL. Ils y seraient éligibles seulement 5 ans après leur arrivée sur le territoire. Et voilà ce qui était écrit noir sur blanc dans votre projet présidentiel en 2022. Réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité. Voilà, 22 mesures pour 2022.
5 années à trouver sur le site du travail. Oui, 5 années de travail d'équivalent temps plein. Oui. Donc c'est pas exactement ce qu'il y a.
Non, il y a cette petite nuance, effectivement, mais est-ce que vous avez le sentiment que la droite s'est convertie à la préférence nationale?
Mais pour le reste, parce que ça, c'est une disposition qui a été introduite par des sénateurs de droite au Sénat, lorsqu'ils viennent sur nos positions, et globalement, lorsque des Français ou leurs représentants, quelles que soient leurs origines politiques, viennent sur nos positions, même si elles ne sont pas parfaites, eh bien, nous nous en félicitons.
Qu'est-ce qui distingue encore la droite du Rassemblement National?
Mais posez-leur la question. Moi, je ne sais pas ce que la droite sur ce sujet-là.
C'est intéressant. C'est-à-dire que vous-même, vous ne trouvez pas de
sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, parce que ce qui distingue
sur l'immigration.
Aujourd'hui, Éric Ciotti pour le coup, a repris l'intégralité des éléments de discours du Rassemblement national, avec des petites nuances pour dire qu'il ne fait pas exactement pareil. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il pense qu'un décalcomanie suffira à masquer la nullité des résultats de la droite en matière d'immigration. Un peu plus que la nullité, d'ailleurs, parce que c'est sous Nicolas Sarkozy, je crois, qu'on a le plus accueilli d'étrangers en situation irrégulière.
Question d'Amandine.
Oui, Sébastien Chenu, une de vos prises de position a beaucoup marqué la semaine dernière. C'était au micro d'Apolline de Malherbe. Je vous propose qu'on vous réécoute ensemble.
Aujourd'hui, la place d'un un jeune juif, il risque plus sa peau dans un environnement islamiste, par exemple en Seine-Saint-Denis, que dans une manif du Rassemblement national, ça c'est sûr.
Donc Sébastien Chenu, toute la Seine-Saint-Denis est islamiste.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit un environnement islamiste, et je le maintiens évidemment, parce que la Seine-Saint-Denis est le département de France où nos compatriotes de confession juive sont les plus nombreux à être partis.
Mais vous voyez bien que vous avez complètement généralisé.
Non, pas du tout. Je n'ai ni généralisé ni essentialisé. La Seine-Saint-Denis est un des départements de France où la pression islamistes sur nos compatriotes juifs les a le plus amenés à quitter le territoire national ou le territoire de Seine-Saint-Denis.
Mettez-vous une seconde à la place des habitants de Seine-Saint-Denis ont écouté lundi matin chez Apolline de Malherbe et qui entendent nous sommes dans un département qui est un département islamiste.
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Benjamin Duhamel, je n'ai pas dit que la Seine-Saint-Denis est un département islamiste.
Environnement islamiste.
Il y a un environnement islamiste extrêmement dense en Seine-Saint-Denis.
Donc,
évidemment. Est-ce que ça veut dire que tous les habitants sont islamistes? Vous racontez n'importe quoi.
Enfin,
est-ce
que vous rendez compte de ce que vous dites? Vous faites pas un amalgame?
Je dis une vérité.
En généralisant, en globalisant.
Je dis une réalité. Moi, je veux bien qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas les choses en face. Vous pouvez ne pas regarder les choses en face. La Seine-Saint-Denis est un des départements dans lesquels il y a la plus forte, j'allais dire, proportion d'étrangers en situation irrégulière dans notre pays. Ça veut dire aussi un communautarisme. On sait que l'islamisme prend racine dans le communautarisme. Et donc, il y a en Seine-Saint-Denis, ne pas le voir, ne pas le reconnaître, une forte proportion d'islamisation et d'islamistes, eh bien, c'est une réalité. Il faut bien dire. Mais d'ailleurs, pourquoi nos compatriotes de confession juive auraient-ils quitté la Seine-Saint-Denis si tout se passe bien? Écoutez, moi, j'ai pas de compatriotes dans le Nord qui quittent forcément certains coins du Nord sous les pressions de l'antisémitisme.
Sébastien Chenu, si vous voulez bien, ne nous faites pas passer pour des naïfs. On peut parfaitement avoir documenté, lu un certain nombre de dérives dans ce département, savoir aussi la question de l'antisémitisme, sans pour autant ne pas voir qu'il y avait dans votre prise de parole une sorte de façon de généraliser.
Mais je maintiens d'ailleurs que là où il y a de l'islamisme, et je ne le confonds pas, car c'est aussi ce que j'ai dit, dans l'interview d'Apolline de Malherbe. Je ne le confonds pas avec l'islam, dont nous avons dit qu'il était compatible avec la République. Parce que sinon, quel message on envoie à nos compatriotes de Mayotte qui sont très largement musulmans? Quel message on envoie à nos compatriotes? Donc je ne confonds pas. Mais je dis que là où l'islamisme est fort, eh bien, c'est dangereux pour un jeune juif, c'est dangereux pour une jeune femme, c'est dangereux pour un homosexuel. C'est évident.
L'impression qui ressort quand même quand on vous entend et quand on écoute Jordan Bardella, également aussi Marine Le Pen et l'ensemble du Rassemblement National, c'est qu'à chaque fois que vous prétextez la lutte contre l'antisémitisme, c'est aussi une façon de vous en prendre de manière indirecte aux musulmans. Et c'est aussi ce que subodore Emmanuel Macron dans ses propos.
Emmanuel Macron, au lieu de subodorer, au lieu de bavarder, ferait mieux de venir manifester.
Mais c'est pas une façon un petit peu détournée, effectivement.
Ferait mieux de venir manifester quand grande majorité des forces politiques de notre pays, à l'exception de l'extrême gauche, dont on connaît aujourd'hui les accointances vis-à-vis des islamistes, eh bien Emmanuel Macron ferait mieux de s'unir aux Français lorsqu'on marche contre l'antisémitisme.
C'est-à-dire, il a commis une faute.
Il a raté un rendez-vous parce qu'il a peur.
Parce qu'il a peur de déplaire. Les raisons, et lui explique.
Bien sûr, bah oui, Emmanuel Macron, il voit toujours le truc.
Il a vocation à rassembler et par ailleurs à s'occuper de la libération des otages.
Il voit beaucoup plus loin, et lui, c'est le coup de billard à trois bandes avant tout le monde. Bien sûr. Non, c'est un peureux. Macron, c'est un peureux. Parce qu'il a peur que qu'un message de sa présence soit perçu.
Il a peur de choquer une partie des Français dans les banlieues.
Par certains Français qui sont sensibles au thème de l'islamisation, de l'islamisme, eh bien, il a peur qu'effectivement sa présence leur déplaise.
Il
y a une partie de la population qui est sensible aux thèses de l'islamisme, notamment ceux qui suivent LFI, par exemple.
D'accord. Donc, c'est d'une forme de clientélisme de ne pas être allé à la...
Oui, bien sûr. Mais il l'a dit lui-même. Il a dit, je ne voudrais pas que la France ce soit la communauté des musulmans contre la communauté des juifs ou contre la communauté. Mais il
donc
voit notre
résumé,
pays.
Je termine. Il voit notre pays. Aux musulmans aujourd'hui,
Non, c'est pas ce que je dis. Il voit notre pays en communauté. Ça montre bien d'ailleurs quelque part l'origine intellectuelle anglo-saxonne d'Emmanuel Macron. Il voit notre pays comme un pays fait de communautés. Or, moi, je ne vois pas notre pays fait comme un pays de communautés. Moi, je pense que, par exemple, nos compatriotes de confession musulmane ont leur place dans cette lutte contre l'islamisme. Certains, d'ailleurs, ont pris part à ce combat, pas assez nombreux, à mon avis, parce que ce serait bien que tous les Français, quelle que soit leur confession ou leur absence de confession, soient là. Mais Emmanuel Macron a évidemment raté un moment, évidemment.
Sébastien Chenu, sur la question de l'antisémitisme, vous étiez, donc vous, à cette marche dimanche dernier. Le président du RN, Jordan Bardella, a rétro-pédalé après avoir affirmé sur ce plateau que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Et il y a un membre de votre parti qui, visiblement, n'a pas apprécié ce rétro-pédalage. C'était auprès de nos confrères de l'Opinion, Bruno Gollnisch. Voilà ce qu'il dit. « Cette déclaration malheureuse et inexacte porte atteinte à tous ceux qui ont travaillé avec Jean-Marie Le Pen. Étaient-ils donc tous antisémite. Est-ce que, disant cela, Bruno Gollnisch peut rester au Rassemblement National ?
Non, mais Bruno Gollnisch fera ce qu'il fera, mais il n'est pas un cadre du mouvement. Il était à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Mais je pense qu'il faut. D'accord, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas. Ce que je ne veux pas, c'est que cette machine qui consiste à évacuer les débats de fond dans notre pays à travers des petites citations de gens qui, sincèrement, n'ont aucun poids sur la ligne politique du Rassemblement national.
Questions de principe. Vous dites, je cite de mémoire Jordan Bardella, on est un bouclier contre, pour protéger la communauté juive. Et vous avez, au sein de votre parti,
eh bien, moi, je désapprouve totalement ce que dit Bruno Gollnisch. Voilà.
Contre Bruno Gollnisch.
Est-ce qu'il faut le sanctionner?
Il n'est pas cadre.
Vous avez eu parfois des élus locaux territoriaux sur des propos similaires.
Qu'il ait un avis que je ne partage pas du tout, c'est une chose. Est-ce qu'il faut le sanctionner? Sincèrement, on verra si la commission des conflits est saisie. Eh bien, elle sera saisie, elle se prononcera. Mais je veux dire, ça n'a aucun poids sur la ligne. Aucun poids. Le poids et la ligne, c'est Jordan Bardella et Marine Le Pen qui la fixent. Mais l'idée de te voir sans arrêt, essayer de ressasser, de retrouver des phrases de vieux leaders totalement passés qui n'ont plus aucun mandat, d'aller disséquer...
Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, c'est pas un vieux leader,
Là, vous me parlez de Bruno Gollnisch. Oui. D'aller disséquer des propos, d'essayer de traquer un éventuel possible dérapage d'un type du Rassemblement National au fin fond d'une cuisine, etc. Je veux bien tout ça. Mais si c'est pour masquer le fait, les échecs des uns et des autres, parce que je crains que ça ne soit ça, c'est pour masquer les échecs des uns et des autres, le débat de fond nécessaire dans notre pays, alors personne n'est dupe. Enfin, je veux dire, on peut passer son temps, et vous ne vous en privez pas globalement, et nos adversaires encore moins, à aller chercher un propos il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans...
Sébastien Chenu, on pose des questions, par ailleurs, on fait ça avec d'autres partis politiques.
Mais ce que je veux dire, c'est que... il y a une espèce de rideau de fumée, c'est l'espèce de machine pour évacuer les débats d'aujourd'hui. Mais les Français ont bien compris. Rassurez-vous, les Français ont bien compris comment ça marchait. Mais ce qu'ils attendent, je crois en tous les cas, ce sont des actes forts sur l'antisémitisme. Pourquoi, par exemple, le président de la République et son ministre de l'Intérieur n'ont-ils pas décidé de l'interdiction des frères musulmans dans notre pays ? Ça ne coûte pas un rond. Ça ne coûte pas un euro de le décider. Ça se fait en Conseil des ministres, ça peut se faire très rapidement. Pourquoi est-ce que ceci n'est toujours pas acté dans notre pays au moment où on nous dit « oui, on va lutter contre l'antisémitisme ».
Mais c'était les frères musulmans, parce que les frères musulmans, c'est derrière une idéologie. Quelle association déposée en préfecture vous interdisait ?
Alors, je vais vous donner un exemple plus précis. Si vous considérez, s'il n'y a pas une association frères musulmans, etc., il y a cependant des structures qui sont financées, dirigées, aidées par les frères musulmans. Je pense par exemple au lycée Averroès, dans le Nord. Moi, je suis nordiste.
L'État veut couper la subvention avec le lycée Averroès.
Il faut dire les choses plus largement. L'État a une convention avec le lycée Averroès depuis très longtemps, et la région, pendant des années, avec Xavier Bertrand, a financé ce lycée. Nous avons dénoncé avec Marine Le Pen dès 2015.
Ça faisait longtemps qu'il se battait.
Non, mais arrêtez. À un moment, il faut voir les choses en face. En 2015, tout est trouvable, évidemment. Avec Marine Le Pen, nous avons demandé à Xavier Bertrand d'arrêter de financer Averroès, tenu par les frères musulmans. Il a continué avec les Républicains. Ils ont utilisé l'argent des habitants des Hauts-de-France pour financer ce lycée. Aujourd'hui, parce que mis devant le fait accompli, ils se rendent compte que c'est un lycée qui est tenu par les frères musulmans, ils rétropédalent.
Qu'est-ce qu'il faut faire, ce lycée, Sébastien?
Combien d'argent perdu ?
Qu'est-ce qu'il faut faire de ce lycée, Sébastien Chenu ? Parce que si demain, ce lycée perd les subventions, il va même continuer d'exister, il trouvera les subventions ailleurs.
Mais il faut rompre, en tous les cas, la convention
qui
lie l'État et les subventions de la région. Il faut arrêter tout ça.
Il faut fermer ce lycée ?
Non, mais ce lycée, c'est un lycée privé. On a le droit d'avoir des lycées privés, mais il y a des conventions qui régissent. Il y a aussi, si ce sont des frères musulmans qui viennent, qui le tiennent ou qui en assurent l'autorité, effectivement, des enquêtes probablement à mener. Mais vous savez, il y a une très bonne enquête qui a été faite par un de vos confrères, Jean-Jacques Bruno, qui explique tout ça.
Pour en revenir à l'actualité, il y a cet après-midi une marche silencieuse pour la paix qui est organisée à l'appel d'un collectif d'artistes. Est-ce que vous comptez vous y rendre?
Non, je l'apprends au moment où vous...
On en a beaucoup parlé quand même.
Ça m'est passé à côté. Mais moi, je suis ravi que des artistes se mobilisent pour la paix.
Pourquoi vous n'irez pas alors?
Non, parce que je pars en circonscription et j'invite mes électeurs de Hartre et de Wanobac à m'attendre à être...
Vous auriez pu rester.
Je les rejoins juste après. Non, je vais dans la circonscription, j'ai des engagements. Mais je veux dire, au-delà de ça, c'est bien qu'il y ait des voix qui se fassent entendre. Si elles le sont et si elles le font avec sincérité, elles le font avec détermination. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse la même chose, on va aussi allumer des bougies, etc. Mais derrière, il y a des choses à faire. Tout ça ne doit pas servir à se donner bonne conscience.
Je crois que le monde de la culture a tardé à réagir, à prendre position, justement, ce qui était reproché, d'ailleurs.
Non, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des gens courageux. Vous avez eu des gens comme Elie Chouraki qui ont sonné le rappel des troupes il y a déjà bien longtemps, mais qui ont expliqué qu'effectivement, les artistes qui donnent beaucoup de leçons bien souvent, pas tous, mais souvent un certain nombre, ont eu un retard à l'allumage. S'ils se rattrapent, c'est bien, mais il ne faut pas que ça serve uniquement à se donner bonne conscience. Ces marches, ces rassemblements doivent sonner l'alarme. On doit comprendre qu'il faut agir dans notre pays contre l'antisémitisme et surtout contre l'idéologie islamisme qui nourrit cet antisémitisme aujourd'hui. Ne pas le voir en face, c'est effectivement laisser les Français face au danger.
Sébastien Chenu, avant de vous montrer une question d'un téléspectateur, je voudrais vous interroger sur ce qui est sur le sénateur Horizon Joël Guerriau qui a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir drogué une députée MoDem à son insu, Sandrine Josso. Monsieur Guerriau a été suspendu de son parti et de son groupe parlementaire. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des nouvelles de Sandrine Josso? Est-ce que vous l'avez appelée?
Bon, j'ai pas de nouvelles de Sandrine Josso. C'est pas une députée que je connais, mais je profite de votre antenne pour lui envoyer évidemment un message de soutien et de compassion dans l'épreuve qu'elle traverse. Redire que les parlementaires ne sont évidemment pas au-dessus des lois et qu'il y a une présomption d'innocence. Moi, je reste toujours très attaché à ça, y compris pour mes adversaires politiques. Monsieur Guerriau est un adversaire politique, il est membre de la majorité présidentielle. Il a une présomption d'innocence, même si les faits qui semblent lui être reprochés ont l'air assez graves. Il devra donc rendre compte, évidemment, et la justice, j'en appelle à une justice sévère dans ces cas-là.
Au-delà de ça, vous qui connaissez très bien l'Assemblée nationale, vous diriez qu'il y a un problème spécifique au monde politique aujourd'hui? Parce qu'il est vrai qu'on a vu des affaires s'y multiplier.
Non.
Disons les choses, de consommation de stupéfiants notamment.
Oui, parce l'avocat
de Monsieur Guerriau laisse entendre que des gens au Sénat lui auraient fourni. C'est pas dit de façon très claire, mais c'est ce qu'il insinue.
D'accord. Bon, je crois pas qu'il y ait dans le monde politique plus que dans la société un problème de drogue. Je pense que ce problème peut exister.
Et un problème de harcèlement des femmes, par ailleurs.
Pareillement pour le harcèlement. Je pense que ce sont des problèmes qui sont très transversaux dans la société. Mais que dans les lieux où s'exerce un pouvoir, une salle de rédaction, le monde politique,
d'accord, mais Sébastien,
etc.,
vous avez déjà
il y a
vu des
probablement
choses
quelque chose de plus aigu.
On vous a déjà proposé vous en avez entendu parler
Je ne suis pas sensible à cela. Mais on ne m'a jamais rien... Je suis très honnête, on ne m'a jamais rien proposé, mais je ne dois pas être le bon client pour ça.
Bien, question d'un téléspectateur, si vous le voulez bien, Monsieur Chenu. Question de Blandine qui vous demande s'il faut rendre imprescriptibles les violences sexuelles contre les enfants, comme le demande la Civis dans son rapport. S'il faut rendre imprescriptible le fait d'être condamné pour violences sexuelles. Voilà la question que vous pose Blandine.
J'entends la souffrance des victimes des violences sexuelles contre les enfants. C'est quelque chose qui me touche, quelque chose auquel je suis sensible. Cependant, je me pose la question de cette réponse juridique. Je ne suis pas persuadé. J'entends et je comprends ce que les victimes demandent, mais je ne suis pas persuadé que l'imprescriptibilité amène un résultat positif. Je m'explique. Si vous rendez ce genre de faits imprescriptibles, alors 20, 30, 40 ans après, vous pouvez remettre ça sur la table et des preuves, des témoignages vont avoir disparu. Et donc, le risque de classement sans suite va être évidemment beaucoup plus important par la justice, parce qu'on dira, machin est décédé, tel témoin n'est plus là, les preuves sont... Et ça générera une certaine forme de frustration possiblement que d'avoir un classement sans suite. Donc dans ces cas-là,
il y a parfois aussi des questions d'amnésie traumatique, de gens qui se réveillent des années plus tard.
Je l'entends, c'est pour ça que je pense que c'est il faut manier ça avec beaucoup de précaution. Oui. Mais je pense que parfois le mieux est l'ennemi du bien. Et je pense que en la matière, l'imprescriptibilité ne me semble pas être la réponse juridique la plus adaptée pour rassurer. Apporter une réponse aux victimes.
On continue cet entretien et je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez, comme Blandine, flasher le QR code qui va apparaître pour interroger directement Sébastien Chenu. Ce QR code, le voilà. Amandine, une question sur la situation au Proche-Orient.
Oui, puisque la situation des otages avance avec certaines négociations, semble-t-il. Le Qatar a dit ce matin qu'il ne restait plus que quelques obstacles mineurs avant un possible accord. Sébastien Lecornu, le ministre, s'est rendu dans la région et a fait cette déclaration dans les colonnes du JDD. Le président a fait de la libération des otages une priorité absolue. Est-ce que sur ce point, vous pouvez dire pleinement que vous faites une confiance totale à l'exécutif pour mener ces négociations ?
Mais nous, on n'a jamais cherché à parasiter la parole de la France à l'international, la parole de l'exécutif et la parole d'Emmanuel Macron. On peut la juger insuffisante, on peut la juger inopérante, on peut être déçu de ce que fait Emmanuel Macron, voire ne pas comprendre, comme beaucoup, le sens du discours d'Emmanuel Macron sur le Proche-Orient. D'un côté, il faut soutenir Israël, et puis le lendemain, on rétropédale, il dit à Israël, oui, mais attention, n'allez pas trop loin. On ne comprend pas bien ce que fait Emmanuel Macron sur la question des otages. Nous faisons évidemment confiance à l'exécutif pour mener les tractations les plus abouties, les plus subtiles, pour obtenir la libération des otages qui reste, en ce qui concerne la France, l'objectif numéro un. Pour nous, Français, l'objectif numéro un, c'est la libération des otages. Et donc, par conséquent, nous voyons bien qu'il faut parler au Qatar. Et Marine Le Pen l'a beaucoup rappelé, la France doit avoir une politique diplomatique équidistante, constante et indépendante. Et dans ces cas-là, si je reprends ces trois termes, ça veut dire effectivement parler à des États avec lesquels, pour le coup, il y a peut-être aussi des choses à avoir demain dans l'avenir. Mais pour le coup, priorité aux otages.
Oui. Alors, équidistante, constante et indépendante, quand on voit les images actuelles à Gaza et compte tenu de la situation d'enlisement dans la région, est-ce que vous apportez toujours un soutien inconditionnel à Israël ?
Non, mais ça, c'était le terme de Yael Braun-Pivet, le soutien inconditionnel.
Ça n'empêche pas de vous poser les questions.
Nous apportons un soutien à Israël dans les respects du droit international. Évidemment.
Mais vous considérez que le droit international est respecté par Israël ?
Je crois aujourd'hui qu'Israël fait très attention à ça. Parce qu'Israël est une grande démocratie. Ils savent qu'ils sont regardés par le monde entier et que par conséquent, ils utilisent des moyens. Alors, une guerre, c'est épouvantable. Une guerre, il y a forcément des victimes civiles. Et il faut le déplorer et limiter.
Pour être très précis dans les termes, Sébastien Chenu, est-ce que vous considérez que jusque-là, Israël a réussi à protéger au maximum les civils des bombardements de Gaza ?
Je crois. Vous savez, dans le droit de la guerre, il y a plusieurs termes. Il y a la distinction, c'est-à-dire ne pas bombarder des populations civiles, la proportionnalité de la réponse. Et lorsque vous êtes agressé la réponse d'Israël est, je crois, proportionnelle, puisqu'ils affirment avertir des bombardements. Et puis, il y a aussi la précaution. Alors, c'est-à-dire, vous ne devez pas placer vos populations, mais c'est dans les deux cas. C'est-à-dire, c'est aussi vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Placer de populations civiles proches d'objectifs militaires.
Pour tout vous dire, je suis assez étonné de vous entendre dire ça, parce que regardez ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien, c'était jeudi soir, à la télévision américaine. Nous nous efforçons de faire un minimum de victimes civiles. Malheureusement, nos efforts ne sont pas
c'est ce que je vous ai dit.
C'est-à-dire que même Benjamin Netanyahou reconnaît
ce que je vous ai dit. Il y a des victimes civiles.
Ils réussissent.
Non, mais je vous ai dit, il y a des victimes civiles.
Oui, mais vous dites qu'ils protègent au mieux.
Je pense qu'ils essayent, en avertissant les populations et en leur permettant d'évacuer, ils ont évacué le nord vers le sud, d'avertir pour que les populations civiles aient le temps de partir.
Donc vous, évidemment, vous n'êtes en rien choqué par les images que vous voyez à Gaza, que ce soit l'hôpital. Vous estimez qu'elles font partie d'une réponse légitime et nécessaire.
Je suis toujours choqué par des images de guerre, encore davantage. Encore lorsque les populations civiles sont évidemment tuées. Simplement, je considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre deux États. Ce n'est pas la guerre d'Israël contre la Palestine. C'est la guerre d'Israël contre le Hamas. Je ne confonds pas l'État palestinien, l'autorité palestinienne et le Hamas. Je ne les confonds pas parce que demain, il faudra retrouver des chemins d'espérance. Il faudra revenir vers la solution à deux États. Vous savez ce que disait Bernanos, l'espérance est du désespoir surmonté. Il faudra bien surmonter ce désespoir, cette guerre. Et évidemment, je pense que le nationalisme palestinien gagnerait à se désislamiser, deviendrait un interlocuteur probablement plus crédible s'il se tenait le plus loin possible du Hamas.
Question d'Olivier Beaumont sur la marche cet après-midi en l'hommage, en honneur de Naël, du jeune Naël.
Oui, parce qu'on a appris il y a quelques jours que le policier qui avait été responsable de la mort de Naël a été libéré. Il a été placé sous contrôle judiciaire et on attend son procès. Il y a cette fameuse marche cet après-midi à Nanterre. Est-ce que vous comprenez l'émotion de sa maman quand elle dit, lui, le policier, il va passer Noël avec son enfant en famille et moi, mon fils, il ne sera pas là à Noël?
Comprendre l'émotion d'une mère, oui, toujours. Personne ne peut se mettre à la place d'une mère qui perd son fils, quelles que soient les circonstances. Ça, j'arrive à le comprendre. Comprendre une peine qui a été infligée à un policier, je la comprends, mais elle était particulièrement forte. Et je le regrette parce que on a parlé d'assassinat. Or, il n'y avait pas d'assassinat en ce qui concerne ce policier.
Enfin, ça a suivi son cours normal, oui, en fait, le cours de la justice. Dire, une détention provisoire et une libération
une détention,
judiciaire.
Oui, une détention provisoire qui a été lourde, hein, 3 mois. Je crois. Donc, c'est pas rien non plus. Donc, je veux dire, moi, j'essaye d'être juste là-dedans. Perdre son fils, c'est toujours terrible. Le policier a été jusqu'à présent mis en détention provisoire d'une façon lourde. Mais je ne voudrais
pas. Trop lourde ? Excessive ?
En tous les cas, très lourde. Je n'aime pas commenter des décisions de justice, d'ailleurs.
C'est-à-dire
en général,
que vous auriez souhaité qu'il n'y en ait pas, qu'il soit exempté de cette détention.
Je ne dis pas ça, mais je dis qu'il a une présomption d'innocence.
Mais alors,
aujourd'hui.
Vous dites quoi précisément?
Qu'il a une présomption d'innocence. À partir du moment où il a une présomption d'innocence, j'aimerais qu'elle soit respectée.
Mais
j'aimerais qu'on le rappelle. J'aimerais qu'on le dise parce qu'on a l'impression qu'on fait passer ce policier pour un bourreau épouvantable qui a cherché à assassiner un jeune. Ce n'est pas cela.
Sébastien Chenu, pour vous dire ce qui est assez singulier dans votre discours, vous expliquez que cette mesure de détention provisoire a été lourde. Pour un parti qui ne cesse, matin, midi et soir, de considérer que la justice est trop laxiste, qu'il faut davantage de gens en prison, là, quand il s'agit d'un policier, tout de suite, vous soulignez la fermeté de la mesure qui avait été décidée.
Vous dites une contre-vérité, Benjamin Duhamel.
Ah
tout
bon
à l'heure, j'ai parlé de présomption d'innocence vis-à-vis, vous voyez, d'un sénateur d'une autre obéissance politique
pour
un autre
fait. Là, on parle de la question de la détention provisoire.
Donc, j'essaye d'être juste. La présomption d'innocence, elle est valable pour tous les citoyens tant qu'ils ne sont pas jugés. Il a été 3 mois en détention. Oui, je trouve que c'est lourd. Oui, je trouve que c'est important.
Quand il s'agit d'autres faits, on ne vous entend pas de la même manière dire que c'est trop lourd.
Non, mais en fait, pourquoi les policiers sont-ils au-dessus des lois?
Des délinquants sont en détention provisoire.
Il
n'est pas assez rarement, Sébastien Chenu, considéré que la mesure est trop lourde.
Oui, parce que je ne considère pas la police comme étant des délinquants. C'est probablement, oui, ça c'est sûr.
Enfin, mis en examen.
Ce n'est pas le terme de délinquant. Je ne considère pas que la police soit un délinquant. Je ne considère pas que la police tue dans notre pays. Et d'ailleurs, pour rebondir sur cette marche, j'aimerais que cette marche ne soit pas un prétexte à une manif anti-flic, anti-police.
Mais
il n'y a pas de poids de mesure. Je vous le dis, je ne considère pas que la police soit délinquante. Et donc, par conséquent, oui, ça a été lourd pour un fonctionnaire de police qui est présumé innocent. C'est lourd, cette détention. Demain, la justice dira exactement ce qu'il en est. J'aimerais que la justice soit aussi efficace lorsque, à Nantes, par exemple, un policier qui a été traîné sur plusieurs mètres, eh bien, son agresseur a été condamné à tondre la pelouse pendant quelques heures, voyez-vous, c'est-à-dire des travaux d'intérêt généraux. Là aussi, on peut en parler. Voyez-vous, là, dans ces cas-là, on ne me dit pas, dans ces cas-là, le délinquant, il n'a pas pris grand-chose. Et c'est un délinquant. La police n'est pas délinquante dans notre pays. La police, elle protège les Français. Et ce policier devra rendre des comptes pour avoir tué un jeune. Mais il ne l'a pas assassiné.
Et oui, Sébastien Chenu, le procès d'Éric Dupond-Moretti s'est achevé jeudi. On connaîtra le jugement dans quelques jours, le 29 novembre prochain. La règle a été fixée par Elisabeth Borne. S'il est condamné, il devra démissionner. Cependant, parmi les députés qui siégeaient au sein de la Cour de justice de la République, il y avait un député RN, Bruno Bilde. Est-ce qu'il était plutôt convaincu par la défense qui a été apportée par Éric Dupond-Moretti?
Il y a 2 députés RN, je crois, un titulaire et un suppléant, donc Bruno Bilde et Anaïs Sabatini, qui ne font aucun commentaire, évidemment, sur ce qui se passe. Ils ne nous ont fait aucun commentaire sur ce qui se passe pendant...
Il n'y a eu aucun écho de la façon dont les discussions...
Aucun, j'ai pas échangé du tout avec mon collègue et camarade Bild à ce sujet. Il y a quelque chose qui est gênant là-dedans. C'est que, évidemment, le garde des Sceaux, en poste, soit évidemment, toute une partie de la journée doivent rendre des comptes, soit juger, et puis il revient à son bureau où il est à nouveau garde des Sceaux. Ça laisse...
C'est tout ce qui vous gêne.
Bah, attendez, quel que soit,
ou plutôt le fait que la justice puisse être politique.
Non mais c'est, je viens. Quel que soit le résultat de ce jugement, ça va laisser planer le doute sur la justice. Et c'est là où je trouve que c'est grave. C'est-à-dire que les Français vont se dire, qu'ils soient condamnés ou pas condamnés, petitement ou de façon plus importante, vont dire, bah, de toute façon, évidemment, puisqu'il est garde des Sceaux, c'est tel résultat. Donc, vous voyez, ça laisse planer un doute et je pense que ça abîme tout l'édifice.
D'accord,
et donc,
mais sa présence mardi, pardon, à l'Assemblée nationale, lors des séances des questions au gouvernement, ça vous gêne?
Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je crois qu'un garde des Sceaux qui est jugé par la Cour de justice de la République ne peut pas être en place.
Donc là, la présomption d'innocence?
Non, mais il est présumé innocent, mais ça ne veut pas dire qu'il peut garder son boulot de garde des Sceaux. Enfin, il est garde des Sceaux, il n'est pas ministre du tourisme.
Mais vous trouvez normal que la justice décide de qui peut être ministre?
Non, c'est pas que la justice puisse dire qu'il est ministre. Ça, je trouve pas ça normal. Mais je pense que lorsqu'on est garde des Sceaux, on a de soi-même une capacité. On a de soi-même une capacité à se déporter. On se dit que lorsqu'on est confronté à un dossier dans lequel on est la pièce centrale du dossier, Éric Dupond-Moretti est la pièce centrale de ce propre dossier et il est ministre de la justice, la décence serait de se déporter. Peut-être le temps de ce jugement, peut-être quelques semaines. Mais sinon, vous abîmez l'édifice que vous êtes censé défendre.
Sébastien Chenu, je voudrais qu'on aborde le livre « Les rapaces » de notre consoeur de l'Obs, Camille Wiggen-Lecoy.
Je me demandais pourquoi ce n'était pas arrivé plus tôt.
Rappelons-le, ce livre enquête décrit la gestion pour le moins sulfureuse de la ville de Fréjus par son maire, David Racheline, également vice-président du Rassemblement national, entre proximité avec le roi du BTP local, argent liquide qui circule, c'est ce que décrit Camille Wiggen, train de vie luxueux. On y apprend par exemple que David Racheline a demandé à son chauffeur de lui acheter en liquide une montre à 15 000 euros. Est-ce que ça vous arrive souvent de demander à quelqu'un, un tiers, de vous acheter une montre en liquide à 15 000 euros?
Monsieur Duhamel, vous devriez quand même utiliser le conditionnel. Vous n'avez pas utilisé le conditionnel dans toutes vos phrases.
Non, alors s'il vous plaît.
On apprend qu'il achète des pensées.
Non, mais je vous pose une question très précise sur la question de l'achat de cette montre en liquide. Est-ce que vous...
Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, écoutez, moi, je ne crois pas un mot de ce qui est écrit.
Vous ne croyez pas à la
question
de la montre?
Moi, je ne crois pas un mot de ce que raconte Madame Wiggen, qui est une journaliste politisée, absolument haineuse, et qui d'ailleurs, à la fin de ce bouquin, remercie les journalistes de continuer à appeler le Rassemblement National l'extrême droite. C'est une journaliste.
Qu'on soit très précis.
Faut savoir de où on parle dans la vie. Madame Wiggen parle d'une place qui fait qu'elle est une militante hostile au Rassemblement National. Donc je ne crois pas ça.
À cette histoire de la montre, vous n'y croyez pas? Ah ben c'est dommage, parce que regardez page 189 dans le livre de Camille Wiggen, David Racheline admet. Regardez, votre montre Hublot a été enregistrée et facturée au nom d'Arnaud Collier, en l'espèce ce chauffeur. Pourquoi? Je ne souhaitais pas mettre en avant un tel achat qui n'est jamais bien perçu par un homme politique. Donc ça veut dire que David Racheline confirme le fait d'avoir demandé à son chauffeur d'acheter une montre à 15 000 euros en liquide.
Alors, si David Racheline le dit, peut-être qu'il avait des raisons de le faire, mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas
manipulation. C'est assez spectaculaire. Là, vous me dites, j'y crois pas, je vous montre l'extrait. C'est confirmé, là,
vous êtes super content, vous dites, oh là là, j'ai réussi à piéger. Mais en fait, je ne sais pas.
Je ne cherche pas à piéger, je vous pose des questions.
Je peux répondre? Là, tout le monde pose une question. En fait, Madame Atalaya, vous avez la juste réponse. Je ne suis pas très au fait de ce que David Racheline avec son chauffeur, avec ses secrétaires, etc.
C'est un peu inquiétant
ce que
parce
je
que vous pourriez
non,
vous intéresser à la façon
non, ce que je
dont
vois.
Sont gérées vos municipalités et au fait que
et
des
là,
montres sont achetées en liquide
là,
à 15 000 euros, ça vous surprend
et là, ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les électeurs de Fréjus jugent de la gestion, des pratiques, de la personnalité de leur maire. Ils le jugent très bien. Ils l'ont réélu au premier tour.
Mais non, mais donc, ça, c'est votre éternel argument.
Patrick Balkany, le Valois-Perret, il était réélu au premier tour.
Mais il n'y a pas, attendez.
Ça ne l'a pas empêché d'être condamné.
Non, deuxième chose. Est-ce qu'il y a une action en justice contre David Racheline au moment où nous parlons?
Pas pour l'instant.
Alors, si, il y en a une. C'est David Racheline contre Madame Wiggen.
Absolument, oui, vous avez raison. Wiggen.
Donc, on est en train de parler d'un maire pour lequel il n'y a aucune accusation en justice contre lui. Que les habitants ont réélu, qui a désendetté sa ville, qui visiblement est apprécié et qui a fait baisser les impôts locaux dans sa ville, et on est en train de fondre sur un élu local dont on dit qu'il a dû acheter.
Je précise que Marine Le Pen a dit qu'elle lui a porté sa confiance, je la cite, jusqu'à démonstration du contraire.
Exactement, eh bien c'est le bon terme.
Ça veut dire quoi alors
C'est le monterne. Bah, que si quelque chose était démontré,
mais venez quand même.
On n'en est pas à la justice. Si la justice déclenche une action et qu'à la fin de cette action, il avait quelque chose à reprocher au maire de Fréjus, eh bien, on en tirait les conséquences. Il n'y a pas d'action en justice contre David Rachline. Mais pourquoi tous ces gens-là ne déclenchent pas la justice, ne portent-ils pas plainte,
non,
etc.
Mais Sébastien Chenu, il peut aussi y avoir une enquête interne. Là, il y a une suspicion.
On n'est pas des flics.
Non, mais il y a une suspicion, vous pouvez quand même un peu aller vérifier.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une enquête interne?
Bah, pour savoir exactement.
Vous savez, la dernière fois que j'ai vu des partis politiques faire des enquêtes internes, c'était pour étouffer les comportements.
Un de ses élus est mis en cause. Non, mais on peut aussi lui demander l'explication, il se défend, et s'il a des arguments, il le fait.
La dernière fois que j'ai vu des partis politiques faire des enquêtes internes, c'était la LFI pour M. Quatennens, pour étouffer l'affaire Quatennens. Donc, si vous voulez, on ne va pas rentrer là-dedans. Il y a une justice, elle n'est pas saisie. Si un jour elle est saisie, elle travaillera. Et c'est ainsi. Et c'est que ça vous plaise ou non, c'est la façon dont se passent les choses normalement. Et ce n'est pas Mme Bigogne qui fait la justice dans notre pays.
Est-ce que, juge, je peux vous reposer la question que j'ai posée? Est-ce que vous...
Alors, à quelle page? Parce que je n'ai pas lu.
Non, est-ce qu'il vous passerait par la tête de demander à un tiers d'aller vous acheter une montre à 15 000 euros en liquide?
Non, non, mais moi, j'achète ce dont j'ai besoin moi-même. Voilà, mais chacun organise sa vie comme il le veut. Enfin, je ne sais pas si vous ne demandez pas à des tiers d'acheter ce dont vous avez besoin.
Des montres à 15 000 euros en liquide?
Mais écoutez, arrêtez de focaliser là-dessus. Si on regarde les montres, la montre du garde des Sceaux, on pourra s'apercevoir qu'elle vaut plus de 15 000 euros. Donc, vous voyez, parce qu'il y avait une polémique sur la Rolex d'Éric Dupond-Moretti, c'est pour ça que je le dis. Donc, arrêtons de nous focaliser sur les petites choses, les choses marginales, alors que notre pays est confronté à des problématiques immenses. En faisant ça, vous dévalorisez l'action politique globale en disant, regardez, lui, il porte une montre à 15 000 euros, l'autre a des chaussures à un tel, etc. Écoutez, il y a des déclarations de patrimoine pour les élus, il y a des déclarations à la haute autorité, tout ça est assez transparent. Et donc, vous savez, je crois que on peut pas beaucoup tricher lorsqu'on est un élu, et tant mieux.
On va passer aux questions des téléspectateurs, Sébastien Chenu. Il y en a plusieurs, j'en ai choisi deux. La première, c'est une question que vous pose Nicolas. Monsieur Chenu, Manuel Valls a qualifié ce matin Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. Qu'en pensez-vous?
Moi, je qualifie pas Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. Je porte pas des qualificatifs qui soient aussi définitifs. En revanche, je considère qu'il agite à des fins électoralistes tous les codes de l'antisémitisme. Voilà. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il pense profondément, intellectuellement, personnellement. J'avais un peu de considération pour vous dire, pour l'homme politique qu'il a été dans le passé. Il a pris un tournant il y a quelques années que je trouve absolument épouvantable. Mais je pense qu'il joue avec les codes très dangereux de l'antisémitisme lorsqu'il dit Madame Braun-Pivet, camp à Israël ou camp à Tel Aviv, etc. Il l'utilise et il l'a fait plusieurs fois. Je trouve qu'il joue un jeu très dangereux. Il le fait pour des raisons électoralistes. Il envoie des messages. Je trouve ça nauséabond. Et je trouve que dans son groupe, il y a des gens qui sont dangereux, ou en tous les cas, Madame Soudet, qui est une de Seine-et-Marne. Il y a des gens qui vont parfois plus loin que Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Guiraud, moi j'ai fait un article 40 pour dénoncer les propos de Monsieur Guiraud, député du Nord, élu de Roubaix, et qui ne rend pas service d'ailleurs aux habitants de Roubaix avec les propos qu'il tient. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon excite, met de l'huile sur le feu, et en cela, il est assez loin de ce que peut être un homme d'État.
Autre question de téléspectateurs, cette fois c'est Roger qui vous interroge. Est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite, dénonçait simplement et clairement l'historique de la naissance de votre parti?
Écoutez, je ne vais pas refaire la liste de tout ce qu'on a pu
dire. Question de Roger.
Oui, bah écoutez, Roger qui peut se cacher derrière de multiples identités. En tous les cas, vous savez très bien, et nous l'avons dit, les propos de Jean-Marie Le Pen ne nous engagent pas, ils sont condamnés et condamnables.
Il était antisémite? Poser la même question à Jordan Bardella.
Je ne délivre pas des médailles aux uns et aux autres. Moi, je me suis engagé parce que Marine Le Pen
a rompu
avec les propos antisémites. La justice a dit que les propos de Jean-Marie Le Pen étaient antisémites.
Donc, ça fait de lui quelqu'un.
Il tenait des propos antisémites. Voilà.
Est-ce qu'il était antisémite?
Il tenait des propos antisémites. Comme Jean-Luc Mélenchon tient des propos et joue avec des codes antisémites. Et de rage, je l'espère, un jour sera sanctionné, je l'espère aussi.
Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci Amandine, merci Olivier. Vous retrouvez tout de suite Ronald Guintrange et Dominique Rizet pour Affaires Suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour C'est pas tous les jours dimanche. Mon invité, il réagira pour la première fois à la polémique de la semaine. Yacine Bellatar sera sur le plateau de BFM TV à ce soir.
Bien.